Des nouvelles de la francophonie. En voulez-vous? En voilà. Bonjour, ici Clotilde Sey. Oui, heureuse de vous faire la lecture de nouvelles, de journaux, de revues, de sites internet francophones de partout au pays. Et on commence aujourd'hui avec le régional. Ça, nous sommes dans le nord de l'Ontario et il est question de l'université de bilinguisme officiel et des partis qui répondent à l'AFO. Vous allez voir, ce sont tous les partis politiques qui disent « Ah, oh, mais nous, pour nous, ça. Ah, ben non, pour nous, c'est ça. » C'est signé Sébastien Pierrose. Ne quittez pas. Quatorze questions pour autant de réponses. Les formations politiques avaient du pain sur la planche devant le questionnaire de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qu'on appelle aussi l'AFO. Contrairement à 2014, les trois partis officiels à Queen's Park ont répondu cette fois-ci à temps au questionnaire, mais les réponses divergent. Provincialiser le mandat de l'Université de l'Ontario français, affirmatif, semble répondre le nouveau parti démocratique, le NPD. Nous nous assurerons que cette université à vocation provinciale sera détentrice d'un véritable mandat provincial. Du ton déterminé que la mise en œuvre d'un mandat provincial exige une modification du cadre législatif, nous présenterons un nouveau projet de loi dans ce sens, peut-on lire, dans ce qui constitue la sixième question de l'AFO. En revanche, les libéraux ne paraissent pas aller aussi loin. Cette université va bonifier l'offre d'éducation post-secondaire en français dans la province. Une fois ouverte, nous sommes confiants que l'Université de l'Ontario français acceptera des étudiants de partout en Ontario, au Canada et au monde. Les progressistes conservateurs se montrent, eux, les plus sobres dans leurs réponses. Nous sommes engagés à continuer le projet de l'Université de l'Ontario français. Le dossier de l'Université de l'Ontario français a connu un coup d'accélérateur important au cours des derniers mois. On sait maintenant que le campus sera ouvert à Toronto, éventuellement en 2020. Mais le mandat de l'établissement, considéré comme trop régional, mécontente beaucoup d'organismes. Second sujet aux réponses assez différentes. Le bilinguisme officiel de la province de l'Ontario. Un sujet qui s'était justement invité dans la campagne après les déclarations du candidat néo-démocrate, Guy Bourgoin, en faveur du projet. Si l'on se fie aux réponses envoyées, le NPD valide les propos de son candidat, mais avec une nuance. Nous nous engageons à identifier les mesures auxquelles il faudrait recourir pour que l'Ontario devienne officiellement une province bilingue, en commençant par un examen critique approfondi de la loi sur les services en français, a-t-il déclaré. Dans un style toujours plus concis, le Parti progressiste conservateur, le PC de l'Ontario, répond aussi à ses côtés « Nous nous engageons à moderniser la loi sur les services en français, la LSF, et contrairement aux libéraux qui se contentent de faire des annonces sans passer à l'action, nous nous engageons et nous moderniserons la LSF. » Pour le président de l'AFO, Carole Jolin, l'objectif reste toujours que les 26 régions désignées se transforment en une seule région désignée qui engloberait tout l'Ontario. Une étape préalable selon lui avant que la province obtienne un statut semblable au Nouveau-Brunswick, la seule province du Canada officiellement bilingue. Restons au nord de l'Ontario, où il est question de loups qui se feraient plus présents à East Ferris. C'est Éric Boutillier qui écrit cela. Le conseil municipal d'East Ferris a récemment déposé une résolution auprès du ministère des richesses naturelles et des forêts afin de sensibiliser le gouvernement provincial au sujet de la présence grandissante de loups dans la municipalité. Certains regroupements, dont l'association de chasseurs et de pêche de Nosbonsing, ont soulevé des inquiétudes auprès des élus municipaux concernant le nombre croissant d'incidents avec des loups dans le territoire de la municipalité. La mairesse adjointe d'East Ferris, qui s'appelle Pauline Rochefort, croit que la province a une responsabilité d'agir pour assurer le bien-être des résidents. Le président de l'association de chasseurs et de pêcheurs de Nosbonsing, Paul-Émile Perron, déplore que la province veuille interdire davantage la chasse aux loups dans un plus grand nombre d'endroits en périphérie du parc algonquin. Selon lui, la conséquence sera que la population de ces animaux ne cessera d'augmenter. Les loups ont été protégés de la chasse à l'intérieur du parc algonquin avant que le ministère ait prolongé la zone de protection aux cantons avoisinants. Les loups se reproduisent et doivent trouver des terrains ailleurs. Alors ils sortent du parc et augmentent leur nombre dans les cantons adjacents, fait remarquer M. Perron. Les gens se plaignent maintenant que les chevreuils se rendent de plus en plus dans leur cour et c'est en raison de cette poussée des loups. Moi-même, cet hiver, j'ai trouvé 6 chevreuils morts sur ma propriété qui ont été étranglés par des loups. Pourtant, le gouvernement provincial parle maintenant d'augmenter le nombre d'endroits où la chasse aux loups serait interdite, poursuit-il. Ce regroupement de gens qui a à cœur la pêche et la chasse a écrit la municipalité demandant qu'elle intervienne, donc a écrit à la municipalité demandant qu'elle intervienne auprès du ministère afin d'éviter une extension de la mise en place d'une zone de protection du loup algonquin. Ce sont des gens qui ont une expertise, une connaissance et des expériences. Alors c'est important pour la municipalité de faire entendre leur voix auprès du gouvernement, indique la conseillère. On a des résidents qui ont rapporté des incidents de loups près de leur domicile, dont un jeune homme qui rentrait chez lui après une marche avec son bébé. Avec l'aide d'une caméra vidéo, il démontre qu'un loup est passé autour de sa maison. Moi-même, je vis près de la forêt et là, j'y pense 2 fois avant d'aller marcher. Ce sont des situations que l'on ne voyait pas auparavant, témoigne-t-elle. La province estime que la population des loups se chiffre autour de 9000 individus, mais il y en aurait seulement 500 de l'espèce algonquine.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana... Pour eux, c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et Black, il fit un rude hiver, sans congestion en fait divers. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre soir de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans nous, oh, 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 sans loups sont entrés dans Paris. soit pas rissé, soit pas rêvré. Sans loup, sans entrer dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire, sans loup, sans entrer dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit six ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, loup, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par rêvé, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent faire carousse, liesse et bonbons dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, loup, oh, oh, les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par ici, les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups.
Dans laliberté.ca, qui est un journal du Manitoba, on trouve un papier qui s'intitule « Les deux options après un incendie ». Et Dieu sait s'ils y ont goûté encore cette année. Et c'est un papier de Daniel Bahuot qui nous dit « Sur le site de la province du Manitoba, les chiffres indiquent qu'à ce jour, en 2018, 184 feux de forêt ont fait des ravages au Manitoba. Au moment d'écrire ces lignes, 45 feux de forêt, dont 24 dans la région centrale de la province, étaient actifs. La Liberté s'est entretenue avec Mélanie Parent, qui est conseillère de la municipalité de Piney, et Michael Doig, qui est forestier régional pour l'est de la province, pour aborder l'impact des feux et la manière dont les forêts sont renouvelées. En avril, un feu de plus de 47 km² a rasé une étendue de forêt dans la région de Badger, village de la municipalité rurale de Piney, au sud-est de la province. 4 800 hectares, soit 12 000 acres de forêt, ont été détruits par les flammes. Près de 560 pompiers ont travaillé à circonscrire l'incendie. Début mai, le feu était sous contrôle. Mélanie Parent estime que la région l'a échappé belle. On surveillait de près les flammes qui sont venues à 2 km du village de Badger, qui est une île dans une mer d'arbres. Lors des rencontres d'urgence du conseil municipal, il était clair qu'une évacuation de la soixantaine de résidences devait être envisagée. Au bout du compte, l'évacuation n'a pas été nécessaire. Or, comme le rappelle Mélanie Parent, les résidents de Badger ont déjà été évacués en 2012. Les flammes de ce printemps ont rasé la même région qu'il y a 6 ans. C'est terrible. Les nouveaux sapins avaient à peine eu la chance de grandir. Ils n'étaient pas assez mûrs pour produire des cocottes. Ça va donc être difficile de faire repousser la forêt. Pourtant, la région en dépend beaucoup. La région des Sandylands dépend largement du tourisme et de l'industrie forestière. La municipalité a une superficie de 2400 km², dont 267 km² sont habités ou développés. Le reste, c'est de la forêt. L'hiver, les gens se rendent sur les pistes de motoneige. L'été, ces mêmes sentiers servent aux véhicules tout-terrain. Les touristes viennent aussi faire la cueillette des bleuets et des champignons sauvages. L'automne, c'est la chasse. De plus, quelques 60 entreprises ou individus détiennent un permis de coupe de bois de la province dans la région délivré par le ministère du Développement durable. C'est ce ministère qui est également responsable de la plantation d'arbres par le biais de Foresterie Manitoba. Michael Doig est forestier depuis 25 ans et forestier responsable pour la région de l'Est depuis 2012. Notre objectif en tout temps est d'assurer le maintien à long terme de nos forêts. Lorsqu'un incendie rase une section de forêt, nous avons deux options. Laisser faire la nature ou intervenir. Dans bien des cas, la repousse des arbres peut se produire naturellement. Dans le cas de l'incendie, dans la région de Badjer, il faudra replanter. Après le feu de 2012, la région est trop endommagée. Avant de replanter, Foresterie Manitoba effectue une coupe d'arbres dans la région incendiée, question de déboiser pour la replantation et de récupérer autant de bois d'œuvre que possible. Michael Doig élabore. En 2008, un feu de 4000 hectares dans la région de Sandylands a été allumé accidentellement par un VTT. On a pu récupérer beaucoup d'arbres morts pour les scieries de Piney et du sud-est manitobain. Les espaces ouverts ont été replantés. Entre 2009 et 2011, on a planté plus de 3 millions d'arbres. Aujourd'hui, le long de la route provinciale 404, on remarque des sapins de 2 mètres. Depuis 2008, Foresterie Manitoba a planté tous les ans dans la région de l'Est entre 1,5 et 1,6 millions d'arbres à une concentration de 2000 à 2400 semis par hectare. Dans chaque cas, nous remplaçons les arbres morts avec la même espèce. Une forêt de conifères demeurera une forêt de conifères. La plupart des bois durs, comme le mélèze et le peuplier, se reproduisent suffisamment rapidement pour que ces forêts repoussent naturellement. D'habitude, ce sont les conifères que nous plantons. Nous effectuons nos analyses et préparatifs à l'automne. Ensuite, nous embauchons des contractuels expérimentés qui assurent la plantation d'arbres au printemps. En avril, le gouvernement Pallister a annoncé la fermeture au 31 décembre 2018 de la pépinière provinciale de Pineland à Adashville, qui était ouverte depuis 1953. La décision aura-t-elle un impact sur l'obtention de semis? Michael Doig, le forestier en chef pour la région de l'Est, croit que non. Pineland a longtemps été un fournisseur de petits arbres pour Foresterie Manitoba, mais nous sommes déjà en train d'étoffer nos listes de pépinières privées. Nous sommes confiants que nous pourrons obtenir les semis requis sur le marché ouvert.
Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. Though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Resist you, what good is there in triumphs? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be.
Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
Alors là, dès comme ça, moi, les amis, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, on peut m'en mettre n'importe quand. Merci, Mathieu Tessier. You Laurie, hein, avec une charmante dame, Lester Allen, voilà, qu'on entendait à l'instant sur les ondes de Canal M. Je poursuis avec la lecture d'articles francophones et qui, souvent d'ailleurs, traitent de la francophonie canadienne. Là, c'est le dynamisme culturel de la francophonie canadienne, expliqué. C'est de Julien Caillouette et ça nous vient du Voyageur. C'est paru dans l'Express.ca, qui est un journal de Toronto. Le dynamisme culturel franco-canadien ne se définit pas de la même façon pour les communautés de l'Ouest, de l'Ontario et de l'Atlantique. Par contre, un fait demeure partout. Plus il y a d'organismes et d'artistes, plus il y a des liens entre eux, plus la vitalité est forte. Lancé le 9 mai, dans le cadre du Salon du livre du Grand Sudbury, le livre « Pour les modèles de diversité, le dynamisme culturel de la francophonie canadienne en milieu minoritaire » présente les résultats d'une recherche sur les raisons derrière la vitalité culturelle et artistique d'une communauté. Dans l'Ouest et les territoires, ce qui est vraiment le moteur de la vitalité culturelle, ça se passe au niveau provincial et interprovincial. Ce sont vraiment les organismes provinciaux qui vont faire bouger les choses sur le terrain, note la doctorante Liane Pelletier, une des auteurs de la recherche. Les organismes locaux existent, mais sont plus dépendants des organismes provinciaux. L'explication de ce modèle repose surtout sur la géographie. La francophonie dans l'Ouest est tellement étendue et éparpillée que c'est difficile d'avoir une concentration de francophones suffisamment importante, explique le professeur de sociologie à l'Université Laurentienne de Sudbury, Simon Laflamme. Ils ont donc adopté un modèle qui permet de diffuser les produits artistiques sur de plus grandes distances et même entre les provinces. En Ontario, c'est un peu le contraire, c'est le local qui domine, poursuit Liane Pelletier. L'appui provincial existe aussi, mais il est canalisé par les artistes et les organismes locaux. Historiquement, en Ontario, les mouvements artistiques et politiques importants ont eu lieu dans des milieux précis, selon Simon Laflamme. Ceci fait qu'il y a eu des artistes qui ont émergé pour une communauté qui les sollicitait. L'éparpillement a également limité la création d'une identité franco-ontarienne unique et d'une synergie plus provinciale. En Ontario, c'est la création de l'œuvre qui préoccupe d'abord les artistes. Après, il arrivera ce qui arrivera, lance Simon Laflamme. En Atlantique, il y a un plus grand équilibre entre l'influence locale et provinciale. De plus, l'identité acadienne joue un plus grand rôle que l'identité franco-ontarienne, franco-albertaine ou autre sur les choix des intervenants. De plus, les provinces étant petites, l'échange entre celles-ci s'impose davantage, nécessitant la présence d'organismes provinciaux pour diffuser la production locale ailleurs. Lisanne Pelletier insiste sur l'importance du nombre et sur les liens entre chacun afin d'expliquer le niveau de dynamisme d'une communauté. Simon Laflamme illustre ce fait en mentionnant que, lors des entretiens avec les responsables d'organismes à Sudbury, il parlait beaucoup des autres organismes. Parmi les autres facteurs incontournables et nécessaires, il y a la présence d'écoles de langue française, une population assez importante qui parle français pour soutenir les artistes, ainsi que la présence de médias et de lieux de diffusion. Les chercheurs font une distinction importante entre les organismes culturels qui ont un mandat plus politique et de défense du français et les organismes artistiques qui produisent ou diffusent des produits artistiques. Ces derniers ont généralement plus de succès à créer le dynamisme culturel d'une communauté. Alors qu'est-ce qui fonctionne? C'est la question qu'on se pose. On était intéressé à déterminer les facteurs qui entrent en jeu dans la vitalité artistique et culturelle dans les communautés franco-canadiennes. Qu'est-ce qui fait que dans une communauté grande ou moyenne ou petite, il y a un dynamisme culturel qui fonctionne? Alors quand dans une autre communauté similaire, ça fonctionne moins bien, précise la professeure Julie Boissonneau de l'université Laurentienne, qui a aussi contribué à la recherche avec Roger Gervais de l'université Sainte-Anne. 20 communautés franco-canadiennes ont été ciblées selon leur taille, leur emplacement géographique et leur niveau de dynamisme culturel francophone. Une première phase a permis de déterminer Une première phase a permis de déterminer les facteurs et leur importance relative. Des entrevues plus ciblées ont été faites pour la deuxième phase afin de mieux comprendre les relations entre les facteurs. On est clairement mieux outillé pour toutes les prochaines étapes que nous entreprendrons et pour comprendre les dynamiques sur le terrain, déclare le président de la FCCF, Martin Théberge. Les prochaines étapes restent cependant à déterminer, car les membres ont des mandats très variés, mais ils peuvent tous utiliser ce document selon lui. M. Théberge est toujours heureux de maintenant pouvoir répondre que le nombre d'organismes est important lorsque ces bailleurs de fonds lui disent « Ces trois organismes-là, pourquoi vous n'en créez pas juste un ?» Le visage des communautés franco-canadiennes se transforme de plus en plus avec l'intégration des nouveaux arrivants. Ce que les chercheurs ont constaté sur ce plan, c'est qu'il existe une séparation au niveau des organismes culturels, mais pas au niveau artistique. Les artistes des communautés ethniques vont avoir tendance à se regrouper dans les organismes d'artistes de la région où ils sont, ou dans des organismes provinciaux. Par contre, les organismes culturels vont avoir tendance à se séparer des autres organismes, rapporte Simon Laflamme. Il y a donc une division culturelle entre les francophones d'origine canadienne et les francophones des communautés ethniques, mais les artistes, eux, vont avoir tendance à se regrouper avec les autres artistes, ce qui fait que les Franco-Ontariens, par exemple, vont trouver le moyen d'être exposés aux artistes des nouvelles communautés parce qu'ils les croisent dans leurs organismes. Vous écoutez l'émission Le National qui vous est présentée par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Restez avec nous en seconde partie. On va vous dire, allez voter plutôt que de manger des curds. On va vous dire aussi, on va vous parler d'une expérience musicale unique pour des élèves de London. Et on va vous parler d'une nouvelle étape dans la stratégie yukonaise du mieux-être mental. À tout de suite.
Je sais que ça fait longtemps. Les saisons s'empilent, une par-dessus l'autre. Ça fait des années, un jour ton jour viendra.
Salut, c'est à nouveau Clotilde Seil pour vous présenter le National. Après Damien Robitaille, écoutez bien, je vous propose un clip qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux et qui nous exhorte à quoi? À ça.
Le 7 juin prochain, on a des élections provinciales en Ontario. Ce serait le fun que les francophones, on lâche notre sac de curds et qu'on aille voter. En gardant en tête les enjeux importants pour les francophones.
Devoir prêter allégeance à Catherine Levac.
Non.
Avoir le droit de manger des fogos en français.
Pas mal sûr qu'on a déjà le droit.
Que Pincourt soit renommé Grosse Baguette.
Hein? Vous voulez être sûr de pouvoir voter le 7 juin et de recevoir votre petite carte d'information? Allez mettre votre info à jour sur le registre des électeurs. Ça prend 2 secondes. OK, peut-être 45. Non, mais tu sais, d'un coup, que sur le registre, vous vous appelez soudainement Kevin puis vous habitez maintenant à Smooth Rock Falls, tu sais?
Moi, je m'appelle Kevin.
Puis si vous n'êtes pas sur le registre, vous pouvez vous inscrire. Puis si vous êtes temporairement déménagé à l'extérieur de l'Ontario, ben vous pouvez quand même voter. En tout cas, moi, le 7 juin, j'ai un cours d'aquafitness. Puis après, je m'en vais voter.
Moi tout!
Et oui, c'est pour vous parler de cela, évidemment, que je vous ai fait entendre le clip « Aller voter plutôt que de manger des curds ». C'est dans le journal le Nord, c'est avec beaucoup d'humour que les franco-ontariens, peut-on lire dans ce papier, sont invités à se prévaloir de leur droit de vote le 7 juin prochain. Cet humour-là, vous venez de l'entendre et d'en profiter. Le commissariat aux services en français, le CSF de l'Ontario, Élections Ontario et le groupe d'humoristes Improtéines s'allient afin d'inciter les francophones à participer au scrutin lors des prochaines élections provinciales. Alors, c'est la première vidéo ludique et humoristique qui circule, que vous venez d'entendre. Elle circule sur les réseaux sociaux depuis lundi. Le 7 juin prochain, on a des élections provinciales en Ontario, puis ça serait le fun que les francophones on lâche notre sac de curds, de fromage en grains, puis qu'on aille voter, lance d'entrée de jeu Vincent Poirier dans cette capsule vidéo d'un peu plus d'une minute. Les humoristes ottaviens ont inventé des causes farfelues pour toucher la communauté franco-ontarienne. Ils parlent entre autres de porter allégeance à l'humoriste Catherine Levac et même de militer pour le droit de manger des pogos en français, comme vous l'avez entendu. Lire l'article complet sur le site du journal Le Droit, si cela vous plaît. Veut pas inciter les gens à aller voter, ce n'est pas la première fois qu'on essaie de faire ça dans l'histoire du monde. On s'est dit qu'avec notre approche un peu autodérisoire et humoristique, que le message passerait peut-être mieux, explique Olivier Nadon, membre du groupe. Son collègue, Stéphane Guertin, ajoute que le groupe devait inventer des causes afin de ne pas favoriser un parti politique. Alors on a inventé des causes farfelues pour se dégager d'une responsabilité politique, parce qu'on ne peut pas. Deux autres capsules seront diffusées sur Internet d'ici le jour du scrutin. Il sera entre autres question de l'importance d'aller voter pour les jeunes et du besoin de personnel francophone pour travailler lors des élections. Par ailleurs, le commissaire aux services en français de l'Ontario, François Boileau, a annoncé lundi la signature d'un protocole d'entente avec Élections Ontario. C'est dans l'optique de voir à ce que les francophones reçoivent des services de qualité en français que le commissariat aux services en français et Élections Ontario ont signé un protocole d'entente visant à garantir un traitement efficace des plaintes, a écrit Maître Boileau sur son site Internet. L'entente a été conclue afin d'encourager les citoyens à faire valoir leurs droits linguistiques. Le commissaire assure que des solutions adéquates seront trouvées lorsqu'une plainte sera déposée. La touche humoristique du groupe ottavien Improtéines se transporte au Yukon. Des membres de l'équipe y sont en tournage afin de promouvoir les services en français. Le ministère des Affaires francophones yukonais a vu ce qu'on avait déjà fait pour le commissariat aux services en français de l'Ontario et il voulait rejoindre les francophones avec humour dans des capsules vidéo. Il nous a invités à venir ici, explique Stéphane Guertin, membre d'Improtéines. Les capsules vidéo parleront des services en français offerts au Yukon qui ne sont pas sans rappeler la réalité des francophones en Ontario. Le Yukon est un peu où l'Ontario se trouvait il y a 20 ans. C'est cool de pouvoir y participer. Les services en français, ça a été un combat en Ontario, mais au Yukon, ça l'est aussi, ajoute Olivier Nadon. La troupe est arrivée sur place, il y a quelques jours. Ils donneront des spectacles, mais surtout s'imprégneront de la culture yukonaise afin de tourner 3 vidéos. Voilà donc, Vincent Poirier d'Improtéine a livré la première capsule pour inciter les jeunes franco-ontariens à exprimer leur droit de vote. C'était le 7 juin prochain et ça nous amène à une chanson de Tété et chantée par Tété, que personnellement je trouve qu'on n'écoute vraiment pas assez. Un jeune garçon qui a un talent fou. Et là, il s'est installé pour chanter cette chanson-là dans des salles de bain. Et ça s'appelle « Votez pour moi », d'où le son un peu cacane, salle de bain.
Je ne reculerai devant rien, moi. Je n'irai tout regard mutin du tac au tac. Post-vérité, c'est mon segment. Prémisse d'un printemps citoyen. Si je te dis qu'il est encore temps, c'est qu'il y a moyen. Votez-vous pour moi, j'imposerai à qui veut l'entendre. 49-3, en fait, il n'y a rien à comprendre. Je restaurerai souveraine les seules valeurs qui tiennent, les miennes, pour moi.
Après une expérience musicale dans une salle de bain, je vous propose une expérience musicale dans une église. Une expérience musicale unique pour des élèves de London, c'est dans l'action.ca et Philippe Thivierge qui nous explique. Le mardi 15 mai dernier, des élèves de l'école élémentaire Marie Curie ont eu la chance de s'initier à un univers peu connu, la composition musicale. Plusieurs, jeunes comme adultes, ont pour passe-temps de jouer d'un instrument ou de chanter, imitant en cela les artistes du monde de la musique avec lesquels le public est le plus familier. Mais qu'en est-il des compositeurs? C'est ce que les élèves ont découvert en rencontrant un de ces travailleurs de l'ombre, il s'appelle François-Hugues Leclerc, et en participant à la création d'une œuvre collective. La sélection de l'école Marie Curie doit en grande partie être créditée à l'enseignante Hélène Lucier qui, pendant plusieurs années, a collaboré avec la SMCQ pour que ses élèves bénéficient de son volet jeunesse. Elle était également la responsable sur le terrain de l'activité. On vit une expérience musicale, quelque chose qui va être unique, commente-t-elle. C'est pour des raisons acoustiques à l'église Saint-Aidan que les jeunes ont été rassemblés. Accompagnée par une pianiste professionnelle, la classe de 4e de Madame Lucier a donné le coup d'envoi de cette activité en chantant l'œuvre « Au regard des solstices » de François-Hugues Leclerc devant trois autres classes du cycle moyen. Cette pièce, d'environ 5 minutes, a pour parole des traductions françaises de haïku, un type de poème d'origine japonaise qui est constitué de 4 canons musicaux, chacun inspiré d'une saison. Il s'agit d'une pièce cyclique, c'est-à-dire qu'elle peut être jouée en commençant par n'importe quel canon, généralement celui de la saison en cours. Les jeunes n'ont pas été contraints au rôle de spectateurs puisqu'ils ont pu participer à la création d'une œuvre musicale. En effet, en amont de la journée tant attendue, les élèves de 5e et 6e année avaient d'abord eu pour tâche d'écrire des haïkus. Puis, M. Leclerc leur a montré comment ils procédaient pour composer en mettant un de ses courts poèmes en musique. Les élèves de 4, 5e et 6e année ont ensuite été invités à chanter cette nouvelle pièce et à jouer d'instruments. Cet exercice faisait la part belle à l'improvisation et les jeunes ont beaucoup appris, tout en s'amusant. Cette activité, comme les autres promues par la SMCQ, a intéressé de près les élèves. Ils sont curieux, ça ouvre leur monde et leur fait découvrir autre chose que ce qu'ils écoutent déjà, observe Hélène Lucier. Ce fut également une excellente façon de valoriser la francophonie. De son côté, François-Hugues Leclerc se dit impressionné par la bonne écoute et la patience dans l'interprétation dont ont fait preuve les élèves de Marie Curie. Ce qui les a beaucoup démarqués, ce sont les interludes instrumentaux, explique-t-il. Ils ont pris le temps entre chaque saison pour faire les transitions. Chaque canon de regard des solstices était en effet accompagné de percussions symbolisant la saison. Quant à l'atelier de composition, il s'agissait d'une première expérience du genre pour M. Leclerc. En général, je travaille avec un étudiant à la fois, relate le compositeur qui s'est retrouvé à London avec un groupe de 90 enfants. Tout s'est néanmoins très bien passé et en échangeant avec eux, François-Hugues Leclerc a mis en musique le haïku suivant. La promenade fraîche, haute montagne, calmes et nobles, je me sens libre. Le rythme des mots et les impressions qui s'en dégagent ont été soigneusement soupesés par le groupe pour en dégager la musicalité appropriée. La SMCQ est enthousiasmée par le projet « Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest » qui permet à des jeunes de se mesurer à des pièces exigeantes mais formatrices. Madame Cavana souligne la bonne collaboration et le professionnalisme des enseignants qui contribuent au succès de ce programme original qui fera d'ailleurs l'objet d'un documentaire. Pour ceux qui se le demanderaient, la SMCQ, c'est l'acronyme de la Société de musique contemporaine du Québec. Voilà. Quelques erreurs à éviter. Est-ce qu'on parle encore de musique? Mais que nenni! Nous parlons de jardinage, mes amis, et c'est dans le journal Le Nord. Alors que les derniers gels du printemps approchent, ne riez pas, il y a encore des coins de pays, au Québec entre autres, ou ailleurs au Canada, qui ont encore vécu du gel la nuit. Ça paraît insensé. Mais c'est vrai. Alors on nous dit alors que les derniers gels du printemps approchent, l'Acadie Nouvelle a interviewé le docteur Jean-Pierre Privé, un physiologiste végétal, donc ça a paru dans le journal Le Nord, mais ça vient de l'Acadie Nouvelle, afin de s'attaquer aux erreurs communes de jardinage en Acadie. En Acadie et partout ailleurs, mes amis. Hein. Son premier conseil, A, éviter de trop labourer sa terre. Ah bon, ça me surprend. L'ancien directeur de la firme de recherche, certainement, H.J. Michaud de Bouctouche, est souvent abordé par des gens qui tentent de comprendre pourquoi leur potager est de moins en moins productif. Dans bien des cas, il s'agit d'individus qui font un usage excessif du rotoculteur. S'il y a une chose que je veux que les Acadiens et Acadiennes gardent en tête, c'est qu'il faut arrêter de passer le rotoculteur pour embellir son jardin. Ça détruit la structure du sol. Ah ben Un truc de moins à acheter à la tire canadienne, c'est parfait, ça va nous faire faire des économies. Celui qui détient un doctorat de Guelph University mentionne que certains passent le rotoculteur 2 ou 3 fois avant la semence. Ils le passent encore une fois à l'automne et après la dernière récolte. C'est trop, selon lui. Bien que le rotoculteur donne une allure légère et moelleuse à la terre, il a plutôt l'effet de changer le sol en béton. Un homogénéiste tellement les particules du sol qu'il va y avoir de la compaction, c'est ça. On homogénéise tellement les particules du sol, aurais-je dû lire, qu'il va y avoir de la compaction et qu'on se retrouve avec des problèmes d'aération. Le seul temps où il faut passer le rotoculteur, selon M. Privé, est quand on veut incorporer de la matière organique au sol, que ce soit du compostage, des vieilles feuilles, du fumier, de la tourbe, etc. Et quand on le fait, il ne faut pas traiter le rotoculteur comme un blender, comme un mélangeur. On a besoin de le faire tourner à 1000 répétitions la minute. On peut juste l'incorporer doucement dans le séant avant de planter. Avant de mettre la main à la pâte, mes amis, les gens ont intérêt à se poser quelques questions de base. On plante quoi? Pour qui? Où? Et quand? Ces questions permettront, entre autres, de découvrir quelles plantes on doit semer à l'intérieur avant le dernier gel, par exemple. Si on a l'intention de planter des tomates, explique M. Privé, on ne peut pas planter la graine directement dans le sol au Nouveau-Brunswick car le climat de la région ne le permet pas. On doit donc acheter des plants ou planter ses graines à l'intérieur dès le début mars. Une bonne planification permet aussi d'avoir plus de succès d'une année à l'autre, surtout chez les jardiniers qui apprennent à maîtriser les principes de la rotation des cultures. On ne peut pas planter la même espèce à la même place chaque année. Les gens ont besoin de faire leurs études pour savoir quoi planter après qu'on ait planté telle ou telle plante. Par exemple, on ne doit pas planter les tomates dans un espace où l'on avait planté des patates. L'année précédente, les deux espèces font partie d'une seule famille, qui est celle des solanacées, qui comprend aussi les aubergines et les piments. Alors, il faut commencer petit et jardiner avec ses petits. C'est une autre erreur commune, selon le docteur Jean-Pierre Privé, qui est de cultiver une trop grande superficie de terre, particulièrement quand on est débutant. Les jardiniers ont intérêt à peaufiner leur technique sur un plus petit lot avant de planter un gros jardin. Je dis aux gens, commencez petit. Faites que ça soit un vrai plaisir à être dehors, à travailler. Si vous voyez trop grand, trop vite, avec trop de différentes cultures, vous allez vous frustrer et vous décourager. Monsieur Privé souligne les qualités thérapeutiques de travailler avec le sol et les plantes. Il encourage les parents à introduire la pratique à leurs petits. On devrait éduquer nos jeunes enfants. Il n'y a presque plus d'enfants qui sont exposés à ça. Monsieur Privé reconnaît que les gens ont de moins en moins de temps pour planter leur propre jardin. Il rappelle cependant qu'on n'a pas besoin de planter un grand jardin pour faire de belles choses.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin. Pour qu'il soit aussi beau que toi. Si tu veux attendre avec moi que les oiseaux reviennent, si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi.
fleurs, les légumes et les fruits, avec la foi des tout petits, le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés, si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs. Cet été, je ferai un jardin, si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit.
On l'aime, la Clémence. Cet été, je ferai un jardin. Vous écoutez Clotilde Seille, c'est l'émission Le National sur Canal M qui va s'achever dans quelques minutes. Avant de vous quitter, je voudrais vous transporter au Yukon, où dans auroreboreale.ca, on nous parle d'une nouvelle étape dans la stratégie yukonaise du mieux-être mental. Le 8 mai, le gouvernement du Yukon a souligné la semaine de la santé mentale en officialisant le lancement des services pour le mieux-être mental et la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie. La création de l'organisme vise à rassembler les services qui étaient auparavant fournis par des programmes indépendants. Le Bureau de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, le service de soutien thérapeutique pour enfants et adolescents et les services de santé mentale. Le gouvernement explique que cette réorganisation doit permettre aux Yukonais de profiter d'un accès unique aux différents services, de plans de soins mieux adaptés à leurs besoins et d'une réduction des délais d'attente. Au cours des 6 dernières semaines, 4 centres des services pour le mieux-être mental et la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie ont ainsi pu ouvrir leurs portes en région rurale. Ces établissements offrent à la population locale tous les services intégrés qui sont gérés par un même bureau gouvernemental. Les victimes d'agressions sexuelles peuvent accéder en priorité aux services pour le mieux-être mental et la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, a précisé le gouvernement. La fusion de ces programmes nous permet de compléter et d'harmoniser l'offre de services en santé mentale, en traumatologie et en toxicomanie, a indiqué la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Pauline Frost. L'ouverture des 4 centres régionaux améliorera l'accès à ces services pour les Yukonais qui résident à l'extérieur de Whitehorse. Ce sont là des mesures concrètes qui nous permettent d'assurer une offre de services adaptée aux besoins, a-t-elle assuré. Cette annonce coïncide avec le 2e anniversaire de la stratégie yukonaise du mieux-être mental, qui jusqu'à maintenant a déjà financé 26 initiatives locales de mieux-être mental. Au cours des 2 prochaines années, les fonds prévus dans le cadre de cette stratégie seront investis dans les programmes de mieux-être mental locaux qui sont déjà en place. Vous comptez peut-être faire du camping au Yukon? Eh bien, avis aux campeurs, pas plus de 24 heures d'avance. À compter de cette saison, les emplacements de camping occupés sans surveillance pendant plus de 24 heures seront passibles d'une amende de 200 $ par infraction, selon le gouvernement du Yukon. Ce changement de règlement vise à répondre aux préoccupations des campeurs. Cela devrait permettre d'améliorer la disponibilité des terrains de camping et d'y offrir un accès équitable, tant pour les résidents que pour les visiteurs. Plus de 1300 personnes ont répondu au sondage proposé par le gouvernement en 2017. 90% des répondants étaient d'accord pour le délai de 24 heures. Qu'en pensent les Yukonais? Eh bien, ils sont plutôt d'accord. Une d'entre elles, une campeuse, dit que 24 heures, c'est bien. Ça laisse quand même du temps pour aller à l'épicerie. Ainsi s'achève le National pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi avec nous. Ça nous fait plaisir, nous, de notre côté, d'être là et d'être là aussi pour la francophonie partout au Canada à chaque semaine. Merci beaucoup, Mathieu Tessier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!